Nous sommes le mardi 24 mai, bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Bonjour Anaïs Sega.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'Ukraine qui entre aujourd'hui dans son quatrième mois de guerre, une vie bouleversée pour des millions de personnes, déjà 50 000 victimes, le bilan dès le début de ce journal. Les autres titres, Anaïs.
Le ministre de l'Éducation nationale en salle des profs, visite surprise de Pape Ndiaye hier à Conflans-Sainte-Honorine dans le collège de Samuel Paty. Le Forum économique mondial de Davos cherche des solutions pour décarboner l'économie. Et puis un concert de musique piloté par le regard et la pensée. C'est surprenant. Rencontre avec Molécule à la fin du journal.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Alexandra.
Deux grands reporters, Ava Djamchidi du magazine Elle et François-Xavier Ménage de TF1. Ils ont suivi la campagne présidentielle. Ils ont vu grossir le phénomène Zemmour. Ils ont enquêté sur la femme de l'ombre, Sarah Knafo. Alors l'histoire secrète d'un candidat sous emprise, dit leur livre, comme les médias peut-être, ça sera à 7h50.
Et à 8h20, nous serons ensemble pour le grand entretien de la matinale avec la toute nouvelle ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Amélie de Montchalin. J'attends vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Il y a eu ces images de blindés russes passant la frontière, c'était le 24 février dernier. Il y a eu aussi le théâtre de Mariupol bombardé, les horaires de Boutcha, ce navire russe coulé en mer Noire, un front mouvant, la défense de Kiev, le pont de planche branlant d'Irpin. On rembobine ce matin 3 mois de guerre qui ont changé la vie de tout un peuple. Nathanaël Charbonnier, notre envoyé spécial à Kiev avec Marc Garvenès.
À Kiev, pour vérifier la date de l'invasion russe, il suffit tout simplement d'aller regarder la barbe blanche de Youri. Et le vieil homme d'expliquer que sa barbe a 3 mois et qu'il la laisse pousser ainsi depuis le 24 février, date du début de la guerre.
Et vous allez la raser quand alors?
Et d'ajouter qu'il la coupera dès que la guerre sera terminée, car son intuition lui dit que c'est pour bientôt. Et si les traces de la guerre se voient sur le visage de Youri, pour Piotr, lui, originaire de Kharkiv, ces 3 mois sont synonymes de maisons détruites et de voitures brûlées.
Tout d'abord, ma voiture a été endommagée par l'explosion d'un missile à sous-munitions. Et je ne peux pas vivre dans mon appartement du 11e étage, car il a aussi été touché.
Car c'est cela la réalité de 3 mois de guerre, on ne trouve pas une personne qui soit épargnée. Ici, c'est Anton, jeune appelé qui retrouve son amoureuse après 3 mois de séparation. Ici, c'est Michael qui explique que tout le monde est touché peut-être, mais que cela donne aussi de la force.
L'Ukraine est un pays paisible et on ne doit pas l'attaquer parce qu'ici habitent de vrais combattants. Et nous allons gagner car nous avons raison.
Et le mantra semble fonctionner puisque la vie reprend déjà presque normalement dans l'ouest du pays. À Kiev, Marc Garvenès, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Alors que dans l'est de l'Ukraine, c'est là que se concentre la puissance de feu de Moscou et comme à Mariupol, même tactique d'encerclement des villes de Severodonetsk et Lysychansk. Situation extrêmement difficile dans le Donbass, dit le président ukrainien. Mais les habitants refusent de partir malgré les risques. Après 3 mois de guerre, Eric Bigala, les pertes matérielles et humaines sont déjà énormes, même si le décompte exact reste difficile.
Si l'on s'en tient aux seules pertes de l'armée russe en Ukraine, qui avait annoncé hier 29 200 combattants russes neutralisés depuis le début de la guerre, incluant les morts au combat et les blessés. La Russie, de son côté, admettait fin mars avoir perdu 5 176 hommes exactement tués et blessés, auxquels Moscou ajoutait tout de même les près de 6 000 victimes de guerre des républiques autonomistes du Donbass, donc au total près de 12 000 pertes côté russe. Les agences de renseignement occidentales, américaines, britanniques ou françaises, vont toutes à peu près vers le même ordre de grandeur. Selon elles, autour de 15 000 Russes et pro-russes ont été tués en Ukraine depuis le 24 février, soit l'équivalent en 3 mois de toutes les pertes russes pendant les 9 ans de la guerre d'Afghanistan dans les années 80, relevait hier le renseignement militaire britannique. Côté ukrainien, les pertes militaires sont lourdes également, autour de 13 000 tués et blessés, selon Kiev, auxquels il faut ajouter les 8 189 victimes civiles recensées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. Bilan total, en 90 jours de guerre, près de 50 000 victimes.
Hier encore, une vingtaine de pays se sont engagés à fournir des armes supplémentaires à Kiev. L'une d'elles pourrait changer la donne. Le système lance-missile anti-navire Harpoon du Danemark pourrait permettre à l'Ukraine de contrer le blocus imposé à Odessa et qui empêche les exportations de blé ukrainien. ukrainiens. Et alors que la guerre fait rage, la peine de mort a connu en 2021 une hausse inquiétante de 20% dans le monde, 579 exécutions, bilan annuel d'Amnesty International sur franceinter.fr. 10e tempête de sable en Irak depuis mi-avril, l'un des 5 pays au monde les plus vulnérables au changement climatique, plus d'un millier de personnes à l'hôpital pour troubles respiratoires. La tempête de sable a frappé aussi le Koweït et l'Arabie Saoudite.
France Inter, 7h05, c'est le premier geste très symbolique du nouveau ministre de l'Éducation nationale.
À peine sorti du premier conseil des ministres hier, premier déplacement en effet de Pape Ndiaye au collège de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, en toute discrétion, sans caméra, mais avec un message très simple, dit-il, refus de la barbarie et de la haine. Sonia Princey, comment les collègues du professeur assassiné ont-ils vécu ce moment ?
Il était 12h30 quand la principale a annoncé au professeur du collège que le nouveau ministre de l'Éducation nationale viendrait leur rendre visite à 15h au moment de la récréation. Mathias, qui enseigne l'anglais, était là avec une trentaine de ses collègues lorsque Pape Ndiaye est arrivé.
Il a rencontré vraiment tout le monde en salle des professeurs. Et on peut dire que le contact a vraiment été bon. De l'impression que j'ai eue, il y avait beaucoup d'émotions. Il était très ému d'être ici et il a parlé un peu de Samuel Paty. Il disait que comme c'était un historien, il s'identifiait quand même à lui. Vraiment, il était au bord des larmes et nous aussi d'ailleurs.
Les professeurs ont pu partager ce qu'ils avaient vécu, expliquer au ministre tout le chemin parcouru, lui dire aussi qu'il se sentait mieux accompagné par le rectorat cette année, même si tout n'est pas parfait. Mathias a apprécié cet échange.
C'est symbolique en fait que sa première visite soit dans notre établissement. Ça m'a beaucoup touché, ouais. C'est vrai que c'est un geste fort de venir dès sa prise de fonction ici pour dire qu'il est avec nous et j'espère qu'on le reverra et qu'on puisse aussi continuer de se reconstruire comme on le fait.
Mais les enseignants ont aussi interpellé Pape Ndiaye sur des revendications salariales et de carrière. Le ministre leur a promis qu'il reviendrait pour discuter de ces questions avec eux, mais sans fixer de date.
L'école, en effet, où un tiers des personnels ne trouve plus de sens à son travail, à lire sur franceinter.fr. L'école, mais aussi l'hôpital, l'inflation, autant de sujets sur la table de la première ministre. Elisabeth Borne reçoit ce matin à Matignon pour la première fois les chefs de file de la Macronie pour le traditionnel petit déjeuner de la majorité. Petit déjeuner durant lequel sans doute il sera question du cas Damien Abad, maintenu à son poste de ministre. Il a redit hier n'avoir jamais violé une seule femme de sa vie, dénonçant un voyeurisme malsain. À droite, l'affaire secoue les esprits, mais l'ex-chef de file des députés LR n'a été couvert par personne, dit ses anciens camarades Anne Souhaitement.
Quel crédit accordé aux rumeurs ? Interpellé par ce qu'il entendait dans les couloirs de l'Assemblée, Christian Jacob, alors patron du groupe, avait questionné Damien Abad en 2017. Le parlementaire avait assuré qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre lui. Fallait-il aller plus loin ? Mais en se basant sur quoi ? Se demande a posteriori une députée. Car si beaucoup de parlementaires concèdent avoir entendu parler de la réputation de lourd dragueur de Damien Abad, jamais d'accusation de viol, d'après les témoignages recueillis par France Inter, aucun n'a jamais constaté le moindre comportement illégal. C'est un traître, pas un prédateur, ou alors on n'a rien vu, plaide une parlementaire. On n'aurait jamais élu président de groupe l'homme dépeint par Mediapart, s'agace un député, pourtant pas tendre avec celui qui a accepté un poste de ministre. Après 2 jours de tempête politique, la droite encourage les éventuelles victimes à porter plainte pour que justice se fasse, mais se défend de toute omerta.
Et Damien Abad qui explique aussi que les législatives pour lesquelles il se présente seront le juge de paix. Vous aurez d'ailleurs le choix en moyenne entre 11 candidats dans votre circonscription au premier tour le 12 juin, chiffre publié par le ministère de l'Intérieur. 6300 personnes se présentent, c'est moins qu'en 2017 et il y a toujours plus d'hommes, 56% des candidats que de femmes. McFly et Carlito à l'Elysée, c'était lui le conseiller spécial d'Emmanuel Macron pour la communication, retourne chez Publicis. Clément Léonard d'Uzy était arrivé il y a 2 ans à l'Elysée. 10 tonnes de lisier répandues sur la façade des locaux de France Nature Environnement en Haute-Savoie, un énorme tas de fumier devant la porte. L'association qui s'était opposée à l'abattage indiscriminé de bouquetins, certains atteints de brucellose, dénonce des tentatives d'intimidation.
John Kerry est à Davos aujourd'hui.
L'envoyé spécial du président américain pour le climat est au Forum économique mondial pour faire tenter de bouger les lignes des entreprises dans la décarbonation de l'économie. Est-ce atteignable d'ici à 2050 ? Devant les investissements colossaux, ça ne semble pas gagné. Et si on ne parle pas encore sobriété, à Davos, on espère être sauvé par les solutions techniques, Laurent Kramer.
À Davos, toutes les innovations technologiques environnementales sont sur la table, à l'image de ce moteur d'avion zéro émission qui intéresse
intéressent déjà British Airways et United Airlines. Valery Mivtakov est le fondateur de ZeroAvia.
Nous pensons avec notre technologie commercialiser des petits moteurs d'avion à hydrogène d'ici 2024. En 2030, la technologie permettra ensuite de motoriser des avions de ligne comme un Boeing 737. C'est exactement comme les véhicules électriques que l'on voit partout maintenant. D'ici 15 à 20 ans, nous allons avoir des avions à hydrogène un peu partout sur la planète.
Mais plus polluant que l'aviation, l'industrie lourde qui fabrique le ciment et l'acier annonce une montagne d'investissements pour se décarboner. Davos appelle à une coopération publique-privée renforcée pour y arriver. Antonia Gawel est en charge de l'action pour le climat au Forum économique mondial.
Nous avons besoin d'une interaction forte pour faire face à cette crise et non pas qu'un secteur attende que l'autre agisse en premier avant de se lancer.
Pour atteindre la neutralité carbone, les dépenses mondiales pour décarboner l'économie devront dépasser les 275 000 milliards de dollars d'ici 2050. À elle seule, la France devra investir de son côté plus de 80 milliards d'euros chaque année pour tenir ses engagements.
Un nouveau record mondial atteint pour les dividendes versés aux actionnaires. Ils ont augmenté de 11% grâce au secteur pétrolier et minier. Et malgré la guerre en Ukraine, 94% des multinationales ont augmenté leurs dividendes ou les ont maintenus, selon le gestionnaire d'actifs Janus Anderson. Le plus gros payeur au monde, c'est le géant minier anglo-australien BHP. Fin du premier tour à Roland-Garros avec 15 Français à l'affiche aujourd'hui. Et peut-être les derniers matchs de Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon sur la terre battue parisienne avant leur retraite. A salué hier le parcours des tricolore, trois qualifiés dont Diane Paris qui a sorti la tenante du titre. L'autre exploit, c'est Corentin Moutet qui a battu Wawrinka et rencontrera son idole Raphaël Nadal au prochain tour. Raphaël Nadal et Novak Djokovic qui ont assuré hier. À noter que 10 rencontres ont été interrompues à cause de la pluie. On vous propose enfin une expérience assez unique. Imaginez le concert du futur où les instruments de musique ne seraient contrôlés que par les yeux et la pensée. Voilà dans quoi nous plonge Molécule, à la fois artiste de musique électronique et chercheur. Il a conçu une machine expérimentale qui fonctionne à l'intelligence artificielle. Mathieu Culeron l'a rencontré avant le départ de sa tournée.
Après avoir proposé un show immersif à 360 degrés, Romain Delahaye, alias Molécule, producteur de musique électronique Bourlingueur, se lance dans l'intelligence artificielle en utilisant pour la première fois une technologie inédite.
J'ai voulu partir sur la création un peu ambitieuse de l'instrument du futur. C'est un instrument qu'on joue uniquement par le regard, par la pensée. Il n'y a aucun bouton, aucune autre manière d'interagir avec lui, avec les mains. Et la deuxième chose, via l'interface de NextMind, qui a développé du coup cette technologie, il y a 8 capteurs qui sont derrière mon cortex visuel et qui envoient des signaux liés à l'humeur, à mon état du moment, qui modulent constamment les sons de Jill.
Sur scène, un studio normal et de l'autre côté, une boîte métallisée, machine intelligente que le musicien contrôle avec ses yeux et son cerveau.
Voilà, donc je vous présente Jill. C'est cet instrument, ce monolithe devant lequel je me pose, je me fixe. La technologie, en gros, arrive à interpréter les zones de mon regard. On est presque désemparé, on n'a aucune incidence sur l'instrument que par la concentration et par que ce moyen de rentrer en transe avec Jill.
Molécule qui sera en concert ce dimanche dans le cadre du festival Nuit Sonore à Lyon.
Voilà, et puis pour terminer, Jérôme, sachez qu'à bientôt 80 ans, Michel Drucker va passer de France 2 à France 3 à la rentrée vivement dimanche avec un horaire avancé à 13h30.
Mais toujours le canapé rouge.
Absolument, toujours le canapé rouge.
Je suppose qu'il reste un élément indispensable de cette émission. Merci à vous Anaïs Feugat pour ce journal. Dans 3 minutes, le zoom quand les habitants d'une petite commune rurale mettent la main à la poche pour attirer des soignants.